بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce 17 de Sha'ban 1443, nous allons parler de l'adab et la beauté du hijab et de la taqiyya. D'après Al-Misbah Al-Munir, c'est un dictionnaire arabe, hajaba, la racine du mot hijab, signifie cacher, voilé. Le hijab est donc quelque chose qui empêche de voir, et le pluriel est hujub. Le hijab est mentionné 7 fois dans le Coran, et dans le Coran il signifie, alors c'est soit un séparateur physique ou métaphorique. Donc un mur entre des gens ou voilà, un voile ou quelque chose comme ça. Le hijab a été rendu obligatoire dans la 4e ou 5e année de l'Hégire, au mariage de Zainab bint Jahsh. Il y a une différence d'opinion en ce qui concerne l'année. Donc c'est la 4e ou 5e année de l'Hégire. Alors, il faut savoir que Zainab bint Jahsh, elle en a été énormément fière. Tout au long de sa vie, en fait, qu'Allah ait révélé l'obligation du hijab la soirée de son mariage, la soirée de la fête de son mariage. Donc, elle ne l'a pas du tout vu comme une oppression, en fait, comme les femmes modernes le voient maintenant, le voile, c'est une oppression, tout ça. Non, non, ça, c'est leur interprétation, en fait, c'est leur réalité à elles, en fait, qu'elles imposent aux autres. Mais Zainab bint Jahsh, en fait, a été fière toute sa vie de ce commandement. Et elle l'a dit à plusieurs reprises aux autres épouses, radiallahu anhunna, moi, mon mariage a été révélé dans le Coran. Moi, grâce à moi, nous avons le hijab. Et aussi une troisième chose, pour dire qu'elle en était extrêmement fière pour elle. C'était vraiment un cadeau d'Allah. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé une walima où Zainab et lui recevaient des gens pour leur mariage. Donc les gens devaient venir manger et partir. Sauf que certaines personnes ont beaucoup trop tardé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de la pièce, revenait en fait, en espérant ne plus les voir et pouvoir rester avec son épouse. Mais ils étaient toujours là à discuter, jusqu'à ce que, quelques instants plus tard, Allah lui révèle le verset du hijab. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il a mis un rideau entre lui, entre son épouse et le reste des gens. Et les gens devaient comprendre aussi qu'il y a aussi un autre verset qui a été révélé, qui a dit aux personnes qui étaient restées que non, ils ne devaient pas s'imposer comme ça. Il devait laisser le prophète Sassam tranquille et respecter son intimité. Donc le verset est A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Et si vous leur demandez, donc à ses épouses, quelque chose, demandez-leur derrière un rideau. Donc le hijab ici, c'est un rideau, une séparation. Et c'est dans la sourate Ahzab, Al-Ahzab, verset 53. Donc, le hijab pour les mères des croyants n'est pas notre hijab à nous. Le hijab pour les mères des croyants, en fait, c'est une séparation. Les gens ne pouvaient pas voir la forme de leur corps du tout. C'est-à-dire que quand elles enseignaient derrière un rideau. Bien sûr, les femmes pouvaient les voir entrer derrière le rideau, leur mahram et tout ça, bien sûr. Mais les non-mahram ne pouvaient pas les voir. C'est-à-dire que si elles sortaient, si elles devaient faire un voyage, par exemple, si elles allaient au Hajj, elles faisaient le voyage dans un palanquin. Et en plus d'avoir le hijab des cheveux, elles avaient bien sûr le niqab, enfin, elles étaient vraiment complètement couvertes. Et quand elles devaient faire leurs besoins, parce qu'il n'y avait pas de toilette à l'époque dans les maisons des Arabes, c'était à l'extérieur, elles y allaient le soir quand personne ne pouvait les voir, et si c'était durant un voyage, les hommes se retournaient, en fait, ne les regardaient pas. Donc ça, c'était leur hijab à elles, parce que bien sûr, ce sont les mères des croyants, radiallahu anhunha, et elles ont un statut très particulier, en fait. Nous n'avons pas le statut des mères des croyants, ce sont les épouses du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour elles, c'est quelque chose de différent. Ensuite, plus loin, dans la sourate, donc le verset 59, il y a le verset pour nous. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, aux femmes des croyants de ramener sur elles leur voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ça, c'est le voile pour les femmes, c'est-à-dire... alors, que veut dire ramener leur voile? Les Arabes de l'époque, elles portaient quelque chose sur leur tête, bien sûr. Elles portaient un voile et c'était courant à toutes les cultures de l'époque, pratiquement. Après, je ne connais pas toutes les cultures, bien sûr, mais les femmes et les hommes mettaient quelque chose sur leurs cheveux. Et les Arabes, en fait, leur pratique, c'était qu'elles avaient un voile sur les cheveux qui pendait derrière, en fait. Le devant, c'est-à-dire la poitrine, la nuque et tout ça, c'était ouvert. Enfin, il y avait pas, le voile n'était pas sur la poitrine. Donc, Allah dit, en gros, laissez ce que vous avez sur la tête, mais ramenez vos voiles sur vous-même, en fait, sur vos poitrines. Donc, ce qui fait le voile que l'on voit de nos jours, le voile de l'islam. Ensuite, il y a un hadith qui parle aussi du hijab. Donc, Asma, la fille d'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhuma, est entrée chez le messager d'Allah sans être bien couverte. Le messager d'Allah a détourné la tête et a dit « Oh Asma, lorsqu'une femme arrive à la puberté, cela n'est pas permis que son corps soit exposé, excepté son visage et ses mains. » Ça a été rapporté par Abu Dawud. Donc ça, c'est aussi le hadith du hijab. Donc il y a le Coran et le hadith. De nos jours, de se couvrir la tête est toujours un signe de piété et de respect dans les autres religions. Donc pas seulement chez nous, mais chez les autres. Par exemple, les juives, certaines portent un voile sur leur tête, d'autres portent une perruque pour cacher leurs vrais cheveux. Les chrétiennes de l'Europe latine, surtout le Portugal, l'Italie, l'Espagne, les femmes portent toujours un voile quand elles vont à l'église. Elles l'enlèvent après à la sortie, mais c'est tout le temps, c'est toujours très courant en fait, qu'elles ne rentrent pas dans une église sans voile. Comme nous le savons, les hindous et les sikhs ont aussi des voiles, comme bien d'autres religions dans le monde. Donc de se couvrir les cheveux, c'est quelque chose qui date de la nuit des temps et qui a une importance tout particulière dans la société en fait. Ce n'est pas seulement spirituel, mais c'est vraiment une marque de respect, un symbole. Ça apporte beaucoup en fait dans la vie du quotidien et dans la vie de la société. En ce qui concerne les hommes, se couvrir la tête est toujours très important, comme au Yémen et en Malaisie par exemple. Quand j'ai été au Yémen, enfin je voyais, je n'ai jamais vu un oustad ou un cheikh donner une leçon sans rien sur la tête. Je n'ai presque jamais vu les habaïbs sans rien sur leur tête, même quand ils étaient dehors à marcher, enfin. Dans leur vie courante, quoi. Même en Malaisie, quand j'y suis allée, je me souviens que beaucoup d'hommes portent la taqiyya ou la imama au quotidien, mashallah. Donc, c'est une très belle sunna et je pense qu'elle devrait vraiment être revivifiée parmi nous parce qu'on ne la voit pas beaucoup chez les hommes et c'est bien dommage. Parce que c'est une sunna qui... La sunna de l'habillement, on aime beaucoup la voir chez les femmes, on apprécie énormément, mais on aime aussi beaucoup la voir chez les hommes. Et de porter quelque chose sur ses cheveux, sur sa tête, d'une manière générale, ça apporte une sakina en fait. On apprécie de voir ça en fait, c'est beau, on fait confiance à la personne. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage de tout ça. C'est pas seulement l'habillement, c'est ce qui se dégage en fait, qui est tellement important. Donc comme les femmes, pour les femmes, le voile est obligatoire bien sûr. Mais bien sûr, ce n'est pas une obligation qui est aussi importante que la salat et la zakat. Parce que comme je l'ai dit, le hijab a été révélé dans la 4e ou 5e année de l'Hégire, ce qui est tard. Alors que la salat, la zakat, le jeûne ont été révélés bien avant, déjà à la Mecque. Donc là, il est certain qu'il y a la salat est beaucoup plus importante que de porter le hijab. Néanmoins, le hijab est extrêmement important aussi et c'est une obligation. Donc comme il est obligatoire pour une femme de porter le voile quand elle entre à la mosquée, quand elle lit le Coran, quand elle assiste à une majlis ou à un cours de connaissances sacrées ou autre, hein, l'homme aussi se doit de le faire par respect et humilité. Même si pour lui ce n'est pas obligatoire, quand il prie à la maison avec sa famille, quand il donne l'adhan ou l'iqama, qu'il lit le Coran, qu'il montre en fait aux gens de sa famille qu'il est extrêmement important de suivre la sunna de l'habillement pour tout le monde en fait. Donc ça c'est important, comme ça l'est dans les autres religions aussi, on le sait. Il est à noter que dans le madhab de l'imam Shafi'i, il est sunna de se couvrir la tête dans les toilettes aussi, pour les hommes et les femmes, pour tout le monde, enfants aussi. Parce qu'il y a les djinns, parce que c'est sale, enfin tout ça. C'est vrai que de nos jours les toilettes ne sont plus sales, alhamdoulilah. Mais quand même, les djinns sont toujours là et la sunna est là, en fait, dans ce madhab. Alors, cependant, le hijab ne signifie pas seulement un bout de tissu qui couvre les cheveux. C'est une tenue complète, en fait. La femme, comme on l'a vu dans le hadith, la femme se couvre son corps, excepté le visage et les mains. Après, il y a une différence d'opinion, hein, bien sûr. Il y a des mazaribs et des opinions qui disent qu'elle doit aussi couvrir son visage. Mais ça dépend de l'époque, ça dépend où on vit, ça dépend de beaucoup de choses. Le principal, c'est qu'elle se couvre de la tête aux pieds, à part les mains et le visage. Les pieds, il y a une différence d'opinion aussi. Dans le madhab al-Hanafi, ce n'est pas awra, ce n'est pas à couvrir. Mais il y a aussi une opinion dans ce madhab qui dit que c'est à couvrir. Mais la majorité des opinions disent que les pieds sont aussi à couvrir. Donc chacun voit en fonction de son madhab. Donc c'est une tenue ample, de tout style, qui couvre de la tête aux pieds. Alors de tout style, c'est-à-dire que le noir, que l'on voit déjà depuis quelques temps, qui est assez répandu dans beaucoup de parties du monde, n'est pas de la sunna en réalité. C'est une pratique des Arabes en fait, de porter du noir. Les Arabes des pays du Golfe, je veux dire, pas les Arabes du monde entier. Donc ça, c'est leur pratique à eux, si ça les arrange de porter du noir en pleine chaleur. Voilà, et s'ils pensent que voilà, c'est plus modeste en fait de porter du noir que d'une autre couleur. Alhamdoulilah, c'est leur choix, mais ce n'est pas forcément ce que nous devons appliquer nous dans notre quotidien. On s'habille en fonction de la culture du pays en fait. Donc en France, par exemple, une longue jupe ample avec un pull ou... quelque chose, un haut ample aussi, avec un voile qui couvre bien la poitrine et tout ça. Alhamdoulilah, ça va très bien. Ensuite, on peut aussi porter des abayas, bien sûr, de couleurs différentes. Dans certains pays, comme certains pays d'Afrique, en fait, ils aiment beaucoup les couleurs. Ils portent le jaune, le rose, le rouge. Donc ça, c'est en fonction de leur culture, alhamdoulilah. Chaque culture vraiment a son style. Quand j'étais en Indonésie et en Malaisie aussi, les femmes portent une tenue... en fait, c'est une longue jupe qui monte haut et qui descend très bas. Elle est recouverte en fait par un haut qui est aussi très long. Mais c'est un style en fait, indonésien-malaisien. Et c'est très très beau, et ça couvre en fait, hein, de la tête aux pieds, et normalement c'est censé ne pas être moulant, et bien sûr elles ont le hijab sur les cheveux. Donc ça c'est en fonction de la culture, du style, voilà. Ensuite, si je peux parler de mon expérience avec le hijab, moi j'ai toujours eu une expérience extrêmement positive avec le hijab. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, depuis ma conversion, donc depuis 11 ans. J'étais déjà en fait fascinée par les femmes qui portaient le hijab avant de me convertir. En fait, ça remonte bien plus. Quand j'étais enfant, j'étais déjà fascinée par les Arabes. Et j'étais fascinée par l'Égypte, par ce monde. Enfin, j'étais vraiment, ouais, j'étais fascinée. Et avant de me convertir, quand j'ai étudié l'islam 2 ans, donc, et pendant cette période, en fait, je vivais en Angleterre et j'étais fascinée par les Somaliennes. Et la manière dont elle portait le hijab, et cette paix qu'elle dégageait quand elle marchait dans la rue, comment elle se comportait. Enfin, j'étais vraiment attirée par tout ça. Et j'ai commencé moi-même à porter le hijab. Enfin, le hijab, pas vraiment, juste un voile sur ma tête avant de me convertir. Et quand j'ai été en Inde, je le portais d'ailleurs. Mais bon, c'était plus un hijab. Un peu au style, un peu le style iranien ou émirati en fait, ça couvre pas vraiment les cheveux, c'est juste un tissu sur la tête et c'est tout. Mais c'était, je voulais vraiment faire l'expérience de ça en fait, et ça me tenait à cœur. Donc moi après quand je me suis convertie, je l'ai pas porté le hijab de l'islam, je l'ai pas porté immédiatement. Ça a été graduel, mais je l'ai porté 6 mois à peu près après ma conversion. Et alhamdoulilah, je ne l'ai jamais quitté depuis. J'en suis très fière, j'en suis très contente. Je me sens très très bien avec le hijab, beaucoup mieux qu'avant l'islam. Je trouve que c'est une vraie liberté, un vrai cadeau en fait, une protection, un symbole, une possibilité de se protéger et de garder ce qui est précieux pour les gens précieux en fait. Et de ne pas, voilà. Le corps de la femme est tellement beau en fait. Une femme est tellement belle. Et je me dis que, subhanallah, tout ça a un prix en fait. Ça n'a pas. Pourquoi en fait exposer tout ça à des gens qui ne le méritent pas en fait, qui n'en prendront pas soin et qui ne le prendront pas à sa juste valeur. Et moi, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi sur le plan académique. C'est que. Quand j'ai commencé à porter le hijab, je passais mon bac en Angleterre et j'ai vu que les gens me regardaient différemment en fait. Ils m'écoutaient beaucoup plus, ma parole avait du poids et avait de l'importance. J'ai senti que ma relation avec les gens avait beaucoup changé en fait. C'était beaucoup plus respectueux, formel. Les non-musulmans me respectaient beaucoup aussi. Enfin voilà, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un changement. Donc c'est mon expérience personnelle bien sûr. Et je demande à Allah de faciliter le hijab à toutes celles qui ont des difficultés, parce que c'est vrai que ce n'est pas l'expérience de tout le monde et ça peut créer des problèmes, ça peut créer des incertitudes, ça peut. Mais je prie qu'Allah facilite à toutes ces femmes qui essayent du mieux qu'elles peuvent. Amen. Après, voilà, dans le monde dans lequel nous vivons de nos jours, à l'époque où la beauté du corps humain a perdu sa valeur et son mystère, c'est vraiment un réel cadeau que l'on se fait quand on se couvre. Parce que quoi que l'on fasse de nos jours, on allume le téléphone, l'ordinateur, la télé, tout le monde est toujours tout nu en fait. C'est une catastrophe. Le corps humain a vraiment perdu de sa beauté et de sa valeur. Tout se rapporte en fait au dégradant, au sale, aux relations sexuelles, mais pour des trucs, mais des broutilles en fait, les pubs, les histoires, voilà, ça peut jamais être platonique, beau, bien, propre, non, jamais. Donc, je trouve que le hijab apporte cette dimension dont on a tant besoin dans ce monde en fait, cette dimension de protection, de propre, de beau, de voilà, donc tout le monde doit s'efforcer de respecter les commandements d'Allah, de toute façon, donc on doit tous travailler sur son ego. Et l'habillement fait aussi partie de l'ego, parce que quand il y a beaucoup de gens qui disent oh, mais moi, ma foi, elle est dans mon cœur, j'adore Allah à ma manière, il le sait, tout ça, mais ça ne veut absolument rien dire en fait, parce que si tu pratiques une religion, tu la pratiques complètement, si tu choisis pas. Et. Il est mieux pour toi de dire je ne veux pas porter le hijab parce que voilà ça j'y arrive pas ou ça me plaît pas ou ci ou ça plutôt que de dire ah mais non mais ce n'est pas obligatoire et de toute façon Allah pardonne. Non, tu dis n'importe quoi, ce n'est pas vrai, c'est obligatoire. Et qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que tu en sais qu'Allah va pardonner en fait? Est-ce que tu es vraiment sincère toi dans ta quête de la religion? Est-ce que tu es vraiment sincère dans ce que tu dis? Est-ce que voilà, il faut aussi se poser des questions. Donc tout ça, ça fait partie de l'ego aussi. Après, il est évident que celles qui sont dans des situations difficiles, qui sont menacées, opprimées, a'oudou billah, même battues parce qu'elles portent le hijab, leur vie est bien plus importante qu'un bout de tissu, il est certain. Les ibadats passent après la vie humaine. Par exemple, ce qu'on voit en Inde, voilà, qu'Allah facilite à nos sœurs en Inde et qu'Allah récompense leurs intentions parce que nombreuses sont celles qui veulent porter le hijab mais qui ne peuvent plus en fait. Qu'Allah vienne en aide à nos frères et nos sœurs là-bas, subhanallah. Ensuite, pensez au fait que si nous ne prenons pas nos responsabilités, ce sera plus dur pour les générations d'après. Parce que nous, on le voit bien en France, par exemple, si les gens ont été si agacés ou si ennuyés par le hijab, c'est tout simplement parce que les générations d'avant ne l'avaient pas porté, en fait. Les femmes d'avant ne le portaient pas. D'un coup, ça vient, les gens ne comprennent pas. Moi, je sais que quand je me suis convertie à l'islam, des gens de ma famille m'ont dit, mais fais comme elle, fais comme les vraies musulmanes, mais elle ne porte pas le hijab, elle ne prie pas, pourquoi toi tu fais pas comme elle? Mais je dis, mais ça veut dire quoi vraies musulmanes? Parce qu'elles sont nées musulmanes et qu'elles sont, entre guillemets, arabes ou d'une autre culture de l'islam, elles sont vraies musulmanes plus que moi, alors qu'elles ne pratiquent franchement rien de l'islam. Non, donc il faut vraiment ne pas penser qu'à soi, mais penser aussi aux générations futures, parce que plus on fait maintenant, moins ils auront à faire, ils auront moins de difficultés. Inch'Allah ta'ala. Ensuite, quant à celles qui enseignent l'islam, elles ont une responsabilité. L'image qu'elles donnent est importante. Le hijab est la tenue de la musulmane par excellence, qu'elle l'accepte ou pas. Par respect par Allah et par respect pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles doivent vraiment faire l'effort de le porter. Il est vraiment très dur de prendre au sérieux une oustada ou une cheikha ou une enseignante, même de l'histoire de l'islam, voilà, qui ne porte pas le hijab parce qu'elle a quand même une responsabilité, elle a quand même, c'est une ambassadrice, elle a un message à porter et c'est dur. Comme il est très dur de prendre au sérieux des mouftis et des cheikhs qui sont en t-shirt, et malheureusement il y en a. Je ne vais pas donner de nom, mais malheureusement, c'est vraiment dommage. Le t-shirt, c'est l'habit de la maison. Ce n'est pas un habit qu'on utilise, qu'on porte pour une khutba ou pour donner une leçon. Malheureusement, ça se voit et c'est très difficile de prendre au sérieux des enseignants, même si, mashallah, leur connaissance, elle est très importante, elle est grandiose et. Mais ça gêne, il y a quelque chose qui coince, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est pareil, hein, pour les hommes et pour les femmes, il faut vraiment faire l'effort de porter l'habit du musulman, qui, comme je l'ai dit, n'est pas. On sait ce que c'est, mais après, le design et tout ça, ça dépend de la culture et de où on est. Quand on aime Allah, on suit les commandements que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. Parce que c'est lui qui nous a enseigné la sunna. Et c'est à travers lui et ses compagnons que nous pouvons apprendre à vivre notre islam de la meilleure des manières. Et ce n'est pas des gens extérieurs à la religion qui vont nous apprendre comment nous habiller et quoi faire en fait. Comme je l'ai dit au départ, Zainab bint Tijash, radhiyallahu anha, elle en a été fière toute sa vie. Elle s'est vantée toute sa vie auprès de des autres épouses du prophète, de l'honneur qu'elle a eu d'avoir eu le hijab, subhanallah. Et en effet, c'est un vrai honneur, subhanallah. Subhanak Allahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العفو منكم.